Donc aujourd'hui, nous accueillons dans ces nuits de la recherche Fabienne Henriot pour son livre donc, de l'oratoire privé à la bibliothèque publique, l'autre histoire des livres d'heures. Un gros livre également, puisqu'il fait près de 500 pages. Il est publié donc, chez Brepols en Belgique. Comme d'habitude, donc on jouera un jeu de questions-réponses pendant 20 minutes et puis après on ouvrira à vos amples et nombreuses questions à la fin. Fabienne, je voudrais commencer par quelque chose de relativement simple comme question. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi les livres d'heures comme l'objet premier de cette étude?
Bien volontiers. D'abord, je voudrais te remercier pour cette invitation. Alors, la raison, elle est extrêmement triviale. Ma première promotion de DCB, c'était en 2014. Ils étaient encore près de 80 à ce moment-là. Je leur avais donné un sujet pour les évaluer sur le patrimoine. Ils devaient écrire une lettre fictive à un élu fictif par rapport à une bibliothèque fictive dont ils pouvaient inventer un peu le contenu pour justifier une opération de numérisation. Dans 80 copies, j'ai vu que le produit d'appel de la bibliothèque qu'il fallait absolument numériser, c'était le magnifique livre d'heures du 15e siècle. Et je me suis dit, mais comment est-ce que le livre d'heures, nécessairement médiéval, enluminé, alors qu'en réalité un livre d'heures n'est pas obligatoirement ni médiéval, ni enluminé, ni manuscrit, pourquoi est-ce que c'est ça qui s'impose dans l'imaginaire d'un bibliothécaire comme la tarte à la crème ou comme le morceau de choix d'une réserve précieuse? Pourquoi cet objet-là, alors que si on y réfléchit bien, c'est un livre de prière, écrit en lettres gothiques, parfaitement illisible, avec un référentiel chrétien qui, sociologiquement, parle peut-être plus vraiment à la société. Et pourquoi c'est quand même ça, malgré tout, que les bibliothécaires veulent défendre, et, alors ça c'était une intuition qui s'est confirmée, que le public veut voir. Il me semble qu'il y a un fossé, là, il y a une contradiction qu'il fallait absolument résoudre. Je me vois encore devant mes copies, notées sur un bout de papier, creuset, livre d'heures, bibliothécaire, imaginaire, patrimoine. Et puis, quand j'ai été à la recherche d'un sujet d'habilitation, je me suis dit, voilà un sujet en or pour entrer dans la question de la patrimonialisation.
Très bien. Alors, en effet, c'est un objet un peu complexe. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qu'est un livre d'heures, du coup, succinctement?
Alors, un livre d'heures, c'est un livre de prière. C'est un livre qui doit scander le temps quotidien. Comme son nom l'indique, hein, il y a des heures auxquelles on doit prier. Il y en a huit dans une journée, hein, ça commence au réveil jusqu'au coucher. Il y a huit moments où le fidèle, le laïc, hein, je ne parle pas de monastère, est invité à se retirer dans son oratoire pour réciter des offices très courts, généralement dédiés à la Vierge Marie. C'est quelque chose qui apparaît au début du 15e siècle. C'est une décantation de l'office monastique, mais à usage des laïcs, et qui va vraiment s'imposer à partir du début du 15e siècle, d'abord dans les milieux princiers, puis par contamination auprès des administrations proches de la cour, par mimétisme avec les pratiques royales, puis ensuite dans la grande bourgeoisie, et ainsi de suite, puisqu'on va en trouver ensuite. Plutôt chez les gens aisés, bien sûr. Et puis, l'imprimerie va s'emparer des livres d'heures, proposer des produits donc, typographiques qui connaissent un grand succès. Il y a au moins 1200 éditions d'heures entre 1470 et 1570. Et puis, des livres d'heures, on en imprime jusqu'au début du XXe siècle. Il faut vraiment s'imaginer. Alors, le contenu n'a plus rien à voir, évidemment, avec ce qui se recopiait au Moyen Âge, ça devient une sorte de missel paroissien, ce que les gens amènent à la messe. Mais on garde le titre heure, et ça, c'est pas pour rien que ce titre fasse vraiment le continuum entre le 14e siècle et début du 20e siècle, parce que finalement, c'est un produit d'appel. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit heure dans une vitrine, un client, il sait ce qu'il peut espérer trouver dans ce type de livre. Même si voilà, les libraires, les éditeurs rivalisent d'inventivité pour renouveler tout le temps les contenus, justement pour renouveler aussi la clientèle. Mais c'est vraiment un livre de prière qui accompagne le temps quotidien et puis la semaine, le mois, l'année. Ensuite, hein, il y a plusieurs strates de temps qui se retrouvent à l'intérieur de ces livres d'office.
Alors, ton livre nous emmène en trois parties canoniques. Donc, à travers d'abord l'histoire du livre d'heures du début du 15e siècle à aujourd'hui, puis en fait se tourne surtout vers la question qui est la question centrale en réalité du livre, qui est la patrimonialisation du livre d'heures. Comment est-ce qu'en fin de compte on le collectionne, ça devient un objet intéressant qu'on essaye de mettre en valeur, et comment en fin de compte, dans une troisième partie, on en fait la médiation. Et on a un rôle de livre public. Alors, à travers ça, tu identifies plusieurs moments de changement dans le statut du livre d'heures entre livre utilisé, livre collectionné, livre patrimonialisé au sens institutionnel. Est-ce que tu peux nous parler de ces jalons historiques et peut-être est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ils peuvent appartenir à des changements plus larges ou est-ce que c'est réellement spécifique?
Alors, effectivement, bon, c'est une enquête pour laquelle j'ai voulu privilégier le temps long, parce que les changements, ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps à se faire. Entre le moment où le livre est consommé dans l'idée de ce pourquoi on l'a fabriqué, c'est-à-dire pour prier, et le moment où on va s'en servir pour tout à fait autre chose, pour de la médiation, pour faire du lien social, pour. Bon. Donc c'était vraiment important de ne pas se donner de bornes chronologiques trop précises. Alors, ce que j'ai identifié, d'abord, c'est que, et ça c'est classique d'un n'importe quel processus patrimonial, c'est qu'il y a un temps de perte d'usage. C'est-à-dire pour qu'il y ait patrimonialisation, il faut qu'il y ait un moment donné où on n'ait plus eu besoin, voire on ait trouvé ça inutile et inintéressant. On peut faire un parallèle avec le monde rural, hein. Aujourd'hui, on a des écomusées avec des vieilles charrues, des outillages, des choses comme ça. Ben, tout simplement parce qu'on a pris conscience que, à force de les détruire parce qu'on a du matériel mécanique plus efficace, ben, on risquait de perdre aussi des gestes, des postures, une culture finalement rurale qui est en pleine déperdition. Ben, là, c'est la même chose. Et alors, cette perte d'usage, on la voit finalement dès le milieu du XVIe siècle, dès tout simplement qu'il y a des imprimés en fait pour subvenir aux besoins spirituels des fidèles. Et qui culmine au XVIIe siècle. C'est-à-dire que ces livres gothiques qui répondent plus aux besoins liturgiques, ben en fait, on les détruit. Au mieux, on garde les petites vignettes enluminées parce que c'est joli. Ça peut faire des petits tableaux religieux. Voilà. Et encore, le style gothique, c'est un mot très dévalorisant au début du XVIIIe siècle. C'est barbare, quoi. C'est le repoussoir complet des lumières et de tout ce qui commence à apparaître à la fin du XVIIe siècle. Donc il y a ce moment de perte d'usage, très difficile à baliser chronologiquement, parce qu'il peut y avoir des temporalités différentes selon les familles, les espaces, etc. Ce qui est certain, c'est qu'au milieu du XVIIIe siècle, grosso modo, dans la décennie 1760, ça devient un objet de collection. Et ce travail des collectionneurs, c'est quelque chose aussi qu'on peut identifier dans la patrimonialisation de l'écrit en général, hein, je pense aux enfantinages, je pense à d'autres types de livres, où souvent les redécouvreurs, ce sont des collectionneurs. Ce n'est pas la puissance publique. Ça commence chez les gens qui perçoivent qu'il y a peut-être là quelque chose de curieux, d'intrigant, d'inhabituel. Alors, ce qui est plus intéressant encore, c'est de constater que ceux qui se lancent dans cette redécouverte, ce sont des robins, donc la noblesse d'Europe, des avocats du Parlement, des personnes comme ça. Donc, il y a une noblesse très fraîche, parfois critiquée justement parce que ce n'est pas la bonne vieille noblesse d'épée. Et qui, en collectionnant des livres qui viennent de la très vieille aristocratie, quelque part, essaye de se rattacher symboliquement à cette noblesse traditionnelle. C'est presque un outil de distinction sociale, de distinction culturelle. Donc, on a des très belles, c'est l'époque du grand collectionnisme, hein, du livre, c'est aussi l'époque où on redécouvre les incunables, etc. Et on voit que les manuscrits enluminés en général, et les livres d'heures en particulier, sont plébiscités par cette noblesse d'Europe. Ensuite, enfin, il faut bien se rendre compte que le collectionniste est une lubie. Peut-être vous-même, vous collectionnez des choses un peu curieuses, mais ça n'intéresse que vous, ou un petit cercle. Pour qu'il y ait vraiment validation de l'intérêt du livre d'heures ou d'autres choses, il faut qu'il y ait une expertise. Il faut qu'il y ait des gens qui soient légitimes pour porter cette expertise et qui disent, bah oui, effectivement, c'est authentique, c'est ancien, c'est précieux et c'est intéressant. Et l'expertise, ben, dans ce cas-là, elle vient des historiens, dans le cas précis du livre d'heures. Alors, l'histoire médiévale, la codicologie, sont des choses qui se sont structurées assez lentement. L'école des Chartes, c'est 1821, les premières chaires d'histoire médiévale, c'est assez tard, hein, dans le 19e siècle. Donc au départ, ceux qui vont incarner cette instance d'expertise, ce sont plutôt des libraires. Ces premières dynasties de libraires d'anciens qui apparaissent à la fin du 18e siècle, mais surtout au 19e siècle. Je pense au Cénacle autour de Naudier, le Butin du Bibliophile, par exemple, mais pas que, il y en a d'autres. Ces sociétés d'antiquaires, par exemple, qui vont vraiment se pencher sur les livres d'heures. Et ce qui les intéresse, on est vers 1840, vous voyez que des grandes périodes, hein. Vers 1840, ce qui ressort, c'est que le livre d'heures, puisque c'est un objet de l'intime, ça veut dire que ça va pouvoir parler de l'intimité. C'est pas l'histoire de France qu'on va faire avec des livres d'heures, c'est l'histoire des Français. C'est vraiment l'expression qui est employée par ces historiens qui expertisent les livres d'heures. Alors, pourquoi ? Parce que dans les miniatures, on voit des vêtements médiévaux, du mobilier, des bâtiments, des scènes, peut-être vous avez à l'esprit les scènes rurales des très riches heures du duc de Berry. On a l'impression qu'on saisit un peu l'homme du Moyen-Âge sur le vif. Évidemment, c'est artificiel, hein. Les miniaturistes n'étaient pas des ethnologues qui prétendaient témoigner de quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce qui se passe. Et puis alors après, on a une foule de relectures que je vous passe, hein. L'histoire nationaliste de la fin du 19e siècle va avoir une autre lecture de ces mêmes livres d'heures, de ces mêmes miniatures, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Donc, ce temps d'expertise, il est vraiment très important, et il commence vers les années 1840. Ensuite, troisième jalon chronologique, c'est la mise sous protection. C'est le moment où la puissance publique va dire « Ah, là, il y a peut-être un objet sur lequel on doit être beaucoup plus vigilant qu'on ne l'a été jusqu'à présent. » Alors, on pourrait dire que dès les grandes ventes de la fin du XVIIIe siècle, comme la vente de la bibliothèque du duc de la Vallière, la bibliothèque du roi, c'était positionné, mais ce n'était pas les livres d'heures. Il y en a qui ont été achetés, mais ce n'est pas parce que c'était des livres d'heures, c'était pour d'autres raisons. Par contre, c'est tout à fait net qu'à partir de la fin du 19e siècle, la Bibliothèque nationale est aux aguets sur ce produit-là spécifiquement. Et ça va encore plus se confirmer au cours du 20e siècle. Et le moment où ça devient vraiment... le livre d'heures fait vraiment l'objet d'une quête par les bibliothèques municipales, la Bibliothèque nationale, je dirais que ce sont les années 80-90, et encore, c'est tout à fait net aujourd'hui. On le voit dans les acquisitions aidées, on le voit dans les classements trésors nationaux, on le voit dans les moments où l'État fait jouer son droit de préemption, par exemple. C'est peut-être aussi parce qu'on a plus de sources pour la période contemporaine, mais en tout cas, on voit très bien qu'il y a un véritable engouement. Une bibliothèque municipale, si elle veut se revendiquer patrimoniale, il lui faut un livre d'heures. J'ai pu faire des études très précises sur des petites municipalités, en utilisant des archives, des délibérations de conseil municipal, les dossiers de demande de subvention des FRAB, des fonds régionaux d'acquisition des bibliothèques. C'est vraiment l'argument. Pour qu'on soit reconnu comme une bibliothèque patrimoniale, même si on a un petit fonds de 1500 volumes, pas extraordinaire, il nous faut un livre d'heures. Donc on va essayer de trouver les financements. C'est facile à trouver sur le marché par ailleurs. Il en passe toutes les semaines. Ils ne sont pas tous exceptionnels, mais ce n'est pas un problème d'en trouver. Par contre, c'est quand même un gros budget. Donc il faut l'aide de l'État, il faut l'aide des régions. Et on voit qu'il y a une vraie bienveillance à l'égard de ces objets-là. Il n'y a pas trop besoin d'argumenter. Et puis, concomitamment, le quatrième temps, c'est celui de la médiation. C'est-à-dire ce moment où c'est important de les conserver, de les mettre sous protection, de les classer. Mais il faut aussi qu'ils rencontrent un public. Pourquoi c'est important qu'ils rencontrent un public ? Parce que dans ce processus... Ce processus ne serait pas abouti si le public n'était pas invité à un moment donné à refaire tout ce chemin que je viens de décrire. Perte d'usage, redécouverte, la confrontation à une vitrine, à un objet, une cimaise, n'importe. Expertise, des gens compétents, un conférencier, on leur dit si, vous voyez, c'est médiéval parce que la calligraphie, la décoration, le parchemin, etc. Et puis, c'est important de le protéger, parce qu'il a déjà 5 siècles, et si on veut qu'il en ait encore au moins autant, il faut lui donner des conditions de conservation absolument optimales. Voilà un peu résumé à grands traits le processus de patrimonialisation en général, et la manière dont il s'applique, je crois, extrêmement bien au livre d'heures.
Donc on a un objet qui est en fin de compte pas très similaire aux plupart des autres objets qui l'entourent dans une bibliothèque, qui sont là depuis des siècles, qui n'ont pas été collectionnés en soi-même, mais qui font partie de fonds saisis. Ici, on a donc un processus très différent. Qu'est-ce qu'apporte cette singularité par rapport à la compréhension, je dirais, des fonds patrimoniaux globaux et de leurs enjeux? Est-ce que c'est réellement quelque chose, en fin de compte, qui leur fait de l'ombre? Ou est-ce que c'est utile dans leur valorisation?
Alors, de l'ombre, oui, très certainement, parce que, je vais être un peu schématique, mais même si au fond on n'y comprend pas grand-chose, est-ce que c'est qu'un livre d'heures? Il faut quand même s'imaginer qu'il y a des codicologues qui travaillent des vies entières là-dessus, à analyser les prières, les variations, les offices, les saints du calendrier, etc. C'est très très complexe. Moi-même, je suis ni codicologue, ni médiéviste, et je ne m'y risquerai pas. Mais même si on n'y comprend pas grand-chose, au fond, d'abord, c'est très joli. Certains, en tout cas ceux qui sont montrés, sont vraiment très jolis. C'est des beaux objets, c'est portatif, c'est petit, c'est illustré, c'est en couleur. Et là aussi, hein, c'est important. On a parlé de médiation. Il faut se rendre compte que jusqu'à une date finalement assez récente, les facsimilés, les reproductions, les catalogues d'exposition ne permettent pas la confrontation à la couleur. Donc, pour le visiteur qui peut les voir, et on a des premières expositions à la fin du 19e siècle, pour ceux qui peuvent se confronter à ce côté chatoyant, ce côté brillant au sens propre, hein, il y a de la feuille d'or, c'est tout à fait, c'est un peu clinquant, c'est très joli, c'est vraiment une expérience esthétique, c'est vraiment une confrontation intéressante. Donc oui, ça fait de l'ombre, ne serait-ce que pour ses qualités documentaires et esthétiques. Après, on peut imaginer une foule d'interprétations, comme j'ai essayé de le faire. D'abord, il y a malgré tout, si on peut dire, l'héritage chrétien, qui fait un peu office d'âge d'or, qu'on n'y croit pas, peu importe, mais ce 15e siècle que les historiens ont désigné comme la matrice de la nation France, hein, je reprends l'expression de Colette Beaume, je crois, la matrice de la nation France, c'est le 15e siècle, l'émergence d'un État fort, centralisé, l'homogénéisation du territoire, même si les frontières, ce sera plus tard. Un certain nombre d'institutions qui se mettent en place, fin 15e siècle, le livre d'heures, quelque part, il renvoie à cette période-là. Et donc, c'est un petit peu nos origines communes. Donc, on peut faire consensus, on peut faire communauté nationale autour de ces objets-là, pour peu qu'on les présente de la bonne manière, évidemment. Cet horizon chrétien aussi, indépassable, c'est fait référence à une période peut-être un peu riche, où il ne se passait rien, donc peut-être stable, enfin voilà, tout ce qui pourrait peut-être aujourd'hui nous manquer et du coup nous rassurer, parce que ça a existé par le passé, donc c'est important. Voilà, c'est une lecture, entre autres, qu'on peut faire du livre d'art, et ça s'applique quand même beaucoup moins bien à beaucoup d'autres objets qui sont dans les réserves patrimoniales. Je l'ai vu par expérience professionnelle, des livres qui ont été saisis dans les couvents à la Révolution, c'est des livres de théologie, quoi. C'est des livres en latin, pas facile d'y adosser un discours qui puisse faire consensus auprès du public. On peut, sur certains types de livres, certaines situations, mais malgré tout, c'est quand même assez difficile. Alors que sur ces objets-là, même si le visiteur n'est pas très, a pas les outils pour distinguer une annonciation d'une visitation, mais c'est peut-être juste qu'on lui explique, c'est quand même plus facile.
Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? En fin de compte, en se basant sur ce que tu dis, l'enluminure qui fait de l'ombre, c'est plutôt drôle, tu évoques aussi l'importance des mots, hein, comme un élément, notamment à la fin de ton livre. Alors que, en fin de compte, ce qui est intéressant ici, c'est que personne ne le lit. En fin de compte, c'est des livres sans mots. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des livres dont les mots ne comptent plus. Ce sont des livres d'images. Et en fin de compte, est-ce que c'est aussi le reflet de notre société, que l'image ait pris le pas sur le mot, et que, en fin de compte, quel que soit le contenu du mot, eh bien, tant que l'image est jolie, c'est ça qui prévaut. Et est-ce que, du coup, tu peux évoquer ce que tu vois comme l'avenir de ces objets qui perdent leur réalité première?
Alors, tu as raison de souligner que ce qui a fait le succès des livres d'heures, c'est leur iconographie. Et toute la déperdition du texte, elle est ancienne, elle commence au XVIIIe siècle, quand on fait ces cuttings, là, ces découpes de miniatures, et qu'on jette les offices, considérant qu'ils sont tous identiques, ce qui est faux. et que de toute façon, sur le plan liturgique, ils sont périmés. Donc c'est important. Alors c'est pas propre au livre d'heures. Le fait que quand on a des livres qui incorporent du texte et de l'image, ce qui finit par faciliter la patrimonialisation, c'est l'image. C'est quelque chose qu'on voit aussi avec les livres à gravure. Je pense à l'encyclopédie Didon et d'Alembert. Si aujourd'hui tout le monde a à l'esprit ce que ça peut représenter sur le plan non seulement de l'histoire du livre, mais aussi de notre histoire de la civilisation, c'est grâce aux planches qui forment une espèce d'inventaire des arts et métiers. Plus personne n'aurait l'idée d'utiliser l'encyclopédie pour chercher la définition d'un mot. En revanche, les planches que d'ailleurs on a vendues à part, qu'on a fait les facsimilés, c'est beaucoup plus important. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Après, quel peut être l'avenir du coup du livre d'heures? Alors j'ai beaucoup de peine à l'imaginer. Je pense que ça va rester une valeur sûre. Parce que ces qualités-là, dans un monde qui est quand même habité par l'image, par le besoin de voir, on a un objet qui rend bien service par rapport à ce besoin-là. Ensuite, parce que le numérique est passé par là. Comme l'avaient pressenti mes DCB de 2014, oui, c'est un objet qui se prête à la numérisation et qui se prête à la dissémination. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que oui, il y aura bien sûr des liturgistes ou des codicologues qui vont examiner l'intégralité du livre d'heures pour repérer des changements de calendrier, par exemple. Mais on a maintenant le recul nécessaire pour voir que les images qui sont produites par le biais des numérisations, elles sont ensuite réenrôlées, selon plein de manières possibles, soit sous contrôle des bibliothèques qui s'en servent pour des cartes de vœux. Ça fait un peu rire d'ailleurs, hein. Vous voyez une annonciation comme carte de vœux, pays laïque, mais enfin bon, pourquoi pas, c'est joli, pour différents objets communicationnels. Mais on voit aussi qu'il y a toute une part de cette dissémination qui échappe aux bibliothèques. On voit que les gens peuvent les utiliser pour un faire-part naissance, pour des détournements, pour illustrer un site internet, des enlumineurs du dimanche qui reproduisent aussi des motifs, voire des détournements, des pastiches. Et cette dissémination des images, je pense que c'est quand même une caractéristique forte de la société actuelle. Je ne peux pas prédire ce qu'il en sera dans 50 ou dans 100 ans. Mais on voit qu'on a là un réservoir d'images qui se prête particulièrement bien à ce besoin-là. Et d'une certaine manière, ce n'est pas inintéressant de souligner que dans les marges des livres d'heures, on a des choses qui n'ont... Ce n'est pas qu'ils n'ont rien à y faire, mais dans la culture du XVe siècle, ce n'était pas choquant. On a des grotesques, on a des scènes même un peu équivoques, hein, limite érotiques. On a des personnages un peu louches, moitié hommes, moitié animaux. On a des drôleries, hein, ce qu'on appelle des drôleries. Donc on avait déjà une utilisation de l'image un petit peu détournée. Et au fond, ce n'est pas inintéressant et ce n'est pas illégitime qu'aujourd'hui encore, on ait cet usage-là de cette imagerie des livres.